à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous allons vous présenter Patrick et moi-même 100% foot. Alors, nous allons évidemment parler de la Ligue 1, de l'OM en l'occurrence et en particulier, et également de notre football régional avec Martigues et Aubagne. On va commencer à parler de la Ligue 2, donc avec Martigues qui a joué ce vendredi et évidemment s'est imposé et avec grand plaisir à Laval 1-0, et c'est une excellente performance de leur part avec évidemment un classement qui ne varie guère, hein, puisque leur position de 17e dans ce championnat est toujours tenue. Ils ont donc 24 points avec Caen qui est dernier de ce championnat avec 19 points, malgré l'arrivée récente de nouvel entraîneur Michel Derzakarian qui fait du bien à Caen. Mais on s'occupe de Martigues qui a une bonne chance de pouvoir peut-être se sauver, et nous l'espérons de tout cœur, Patrick, puisqu'ils ont la possibilité d'être barragistes, sachant que étant 17e avec 24 points, Clermont est 16e avec 25, Rodez 27 points et le Red Star un peu plus bien à 29. Et on pourra évidemment imaginer peut-être que Ajaccio sera relégué pour des raisons administratives, puisque c'est d'actualité. Mais une chose est sûre, c'est que Martigues, en continuant de la sorte, ils ont une chance d'être barragistes. Leur prochain match sera le 7 mars prochain. Ils iront à Bastia. Voilà pour la Ligue 2.
Voilà, et c'est toujours difficile à Bastia, qui est probablement sauvé en Ligue 2, mais oui, qui est quand même pas non plus pas des masses de points d'avance. Mm-hmm. Mais en allant gagner à Laval 1-0, héroïquement, parce qu'ils ont...
Oui.
Il a fallu se battre et s'accrocher.
Il faut suivre les matchs, voilà, jusqu'au bout.
Ils ont, à mon avis, maintenu une chance de se maintenir. Et parce qu'un seul point sur Clermont qui est barragiste... Mmh. Ça te laisse des possibilités, voilà. Donc, et Caen est quand même à 5 points derrière, donc ça va. Et si Ajaccio, on ne le souhaite pas, mais venait avoir des problèmes et à déposer le bilan, hein, on rappelle qu'il reste il cherche un repreneur.
Ce qui reste fort probable.
Voilà, ouais. C'est malheureusement une possibilité qu'ils soient obligés de déposer le bilan. Ils sont automatiquement rétrogradés. Donc, ça te laisse, toi, une possibilité, même barragiste, tu as mis. Voilà, tu
bien
peux
sûr
espérer te maintenir sur un barrage aller-retour où tu reçois un second. Hein. Donc, belle performance de Martigues et on va leur souhaiter du courage. Et en espérant,
il leur en faudra.
Voilà, il leur en faudra.
Parce qu'on sait, évidemment, que leur saison jusqu'alors n'a pas été évidente. C'est le moins que l'on puisse dire, ouais, car on les voyait perdus, et évidemment, dans les profondeurs de ce classement. Mais bon, ça va beaucoup mieux.
Voilà, disons peut-être que la réussite qui leur a manqué en début de saison, où ils faisaient plusieurs fois, ils ont perdu dans les dernières minutes et tout... Ben là, maintenant, le leur réussit, puisque leur gardien leur a tenu la baraque pendant 97 ou 18 minutes à Laval et qu'ils n'ont pas perdu. Voilà.
Donc, ils arrivent à faire la différence souvent en fin de match. Voilà. Ça a été le cas sur les trois dernières rencontres.
Ouais. Voilà, où ils tiennent et ils arrivent à marquer à la fin, donc c'est bon. Félicitations au FC Martigues.
Absolument. Alors, évidemment, la Nationale également, Aubagne a joué pour la 23e journée face à Dijon. Malheureusement, on s'est incliné au stade de l'Âtre face à Dijon 2-1. C'est une, on va dire, statu quo au niveau du classement en ce qui concerne Aubagne. Il n'y a pas vraiment de variation au niveau classement puisque, bon, ils occupent toujours la 7e place. Il va être compliqué, je dirais, d'accéder, et ce n'est pas le but, nous répétons, en tout cas, de se maintenir, puisque voyons un petit peu les équipes qui les précèdent. Il y a donc Valenciennes 5e, 31 points, ainsi que Dijon, même nombre de points, Aubagne est là, à 30 points, et derrière, donc... Rouen 29, Bourg-Péronas 28 et Sochaux, 10e avec 26 points, restons dans ce milieu de tableau et restons justement dans cette optique de maintien. Pour Aubagne, voilà. L'accession serait peut-être un peu prématurée.
Oui, oui, certainement, parce qu'en plus, on sait qu'ils ont été pénalisés en début de saison parce que leur stade, venant de National 2, n'était pas aux normes. Mm-hmm. Il a fallu payer les travaux.
Ah, oui.
Si tu montes en Ligue 2, il n'est pas valide, ton stade, donc il faut faire encore des travaux. Donc, comme a fait Martigues, tu fais la première moitié de saison en jouant à l'extérieur tes matchs
très problématique.
Sur terrain neutre et tout. C'est très problématique parce qu'ils jouaient à Istres, mais ce n'est pas sûr qu'ils puissent jouer en Ligue 2. Donc, c'est une équipe qui n'a pas un gros budget. Il te faut quand même des joueurs d'expérience, ce qui leur manque, oui. National, des joueurs de bouteille. Et donc, ça serait peut-être un mauvais cadeau que de jouer l'accession. Maintiens-toi en National, stabilise-toi à ce niveau-là et dans 2-3 ans, tu essaieras peut-être de pouvoir structurer, essayer d'aller chercher un peu plus
absolument,
haut.
Un projet à moyen terme qui ne peut pas s'improviser. Comme il y a quelques années, malheureusement, j'ai connu Istres qui a accédé à une division, la première en l'occurrence, et n'était pas vraiment prête. Je dirais, le président Bertrand Benoît de l'époque avait des difficultés justement au-delà des résultats sportifs, justement, en première division, à gérer comme en seconde division. Donc, ça a été une catastrophe, une dégringolade pour ce club. Il ne faut pas qu'Aubagne, justement, ait des désillusions.
De ce type, on rappelle des équipes comme Niort. On voit Dijon, Sochaux, Valenciennes sont nationales. C'est les équipes qui étaient en Ligue 2, voire en Ligue 1, pour Dijon et Sochaux.
Absolument.
Et puis, tu as un budget de Ligue 1, des salaires de Ligue 1. Et quand tu tombes en Ligue 2, les droits télé sont divisés par 10 ou 15. Tu te retrouves en galère et tu n'arrives pas. Et si jamais tu as le moindre problème, tu coules. On en parlera tout à l'heure en parlant de la Ligue 1, de problèmes financiers de plusieurs clubs.
Absolument.
C'est sûr que tu ne peux pas te permettre. Donc, Aubagne, se stabiliser en National, assurer le coup, apprendre, s'imposer en National, et puis après, dans un temps un peu pas très lointain, si possible, voir si tu peux tenter plus.
Bien entendu, à moyen terme, l'encadrement technique nouveau, il y a eu pas mal de bouleversements. Après, il serait confronté, je dirais, en cas d'accession soudaine, justement, à des problèmes, voire plus.
Économique.
Absolument.
Voilà. Donc, quand même, félicitations pour une première année en National, 7e. À 10 journées de la fin, c'est beau, c'est bien.
Une très belle équipe de football qui développe quelque chose d'intéressant. Malgré la perte de Maxence Flachès, qui était leur entraîneur en chef et qui a apporté du sang neuf au niveau technique à cette équipe, ils ont remis les compteurs à zéro. Le président a repris des anciens, je dirais, entraîneurs et dirigeants de ce club. Il faut partir sur de bonnes bases et ne pas griller les étapes.
Et puis peut-être se renforcer intelligemment l'année prochaine en National avec un ou deux joueurs pro prêtés, comme l'OM a prêté un jeune joueur à Versailles.
Oui, en effet.
Traoré, Soumaïla Traoré, un jeune comme ça, un ou deux joueurs un peu expérimentés qui ont de la bouteille, que tu fais venir et ça te permet de te stabiliser. Donc,
le mot magique, stabiliser et pérenniser une envie de réussite et une équipe, en l'occurrence.
Donc, bon courage à Martigues et à Aubagne. Voilà.
Voilà. En ce qui concerne les féminines de l'Olympique de Marseille, en D2 Arkema, elles ont été exemptes encore. Elles sont toujours, me semble-t-il, c'est ça, troisième de ce championnat. Le prochain match, je ne sais pas. Quand est-ce qu'elles vont disputer. Il y a tellement un championnat un petit peu il se trouve qu'il y a beaucoup de matchs qui ne sont pas joués. Le fait que Bordeaux ne fasse plus partie de cette division aussi
Oui, amène un exemple chaque journée.
Absolument,
et là, il y a des matchs internationaux.
Voilà.
Donc, le championnat ne joue pas quand il y a des matchs d'équipe de France, alors que de Ligue 2.
Alors que de Ligue 2, a priori,
il n'y en a pas qui sont nationales. Mais donc, voilà. Donc, actuellement, elles sont au repos. Et elles sont tranquillement en haut de tableau, mais avec très peu de chances d'accession. Il n'y a qu'une place. Donc, c'est très peu probable. Mais en fait, c'est bien, il faut stabiliser, puis là aussi construire, renforcer petit à petit pour pouvoir viser la montée. On rappelle que chez les féminines, l'écart entre Ligue 2 et Ligue 1 est quand même relativement important.
Oh, oui.
Je ne parle pas d'aller concurrencer Lyon ou Paris Saint-Germain. Hein. Je parle de se maintenir tranquille en Ligue 1. C'est quand même le niveau, il est beaucoup plus élevé. Donc... stabilisons, construisons et puis nous verrons bien.
Justement, la construction d'une équipe de ce type prendrait un peu de temps, mais il faudrait que le projet soit réalisé et non pas se précipiter. L'encadrement technique est présent, mais bon, faut-il se donner les moyens pour y accéder ? Bon, nous verrons ça donc prochainement. Bon, ben, on va pouvoir parler de notre chère Ligue 1. Et de l'Olympique de Marseille, évidemment, de la 24e journée hein, qui s'est terminée hier au soir. Donc, rapidement, rappeler les scores de cette journée. Donc, vendredi, Monaco a battu Reims 3-0. Samedi, Rennes a perdu face à Nice 3-1, ce qui ne nous satisfait pas plus que cela, dans la mesure où on jouait dimanche. Lens a perdu face au Havre à domicile 4-3. Ouais, le Havre a battu Lens. Le PSG, évidemment, a étrié, c'est le moins que l'on puisse dire, Lille, 4-1. Un match assez particulier, mais en tout cas, un résultat qui est justement mérité par cette équipe. Hein. Ils sont vraiment premiers, c'est rien de le dire. C'est le cas de le dire. Dimanche, Lyon a battu Brest sur un match particulier 2-1. Voilà, une fin de match un peu houleuse. On ne va pas y rentrer dans les détails, mais enfin, Lyon a battu donc Brest 2-1. Angers a perdu à domicile face à Toulouse 4-0. Strasbourg a battu Auxerre. J'aurais préféré que la semaine passée Auxerre perde, mais en l'occurrence, là, Strasbourg a battu Auxerre 1-0 à la Baie des Champs. Rennes est allé battre Montpellier 4-0. Donc, ouais, on peut parler de fin des haricots, peut-être, côté montpelliérien. En tout cas, Rennes s'est fait un peu la cerise, ne joue pas grand-chose. Montpellier, ça va être assez compliqué, justement, pour se maintenir dans cette Ligue 1. Et puis, on a terminé cette journée avec la victoire de l'OM 2-0 face au FC Nantes, avec Patrick dans les tribunes, comme à l'accoutumée.
Et
dans le virage.
Et avec Thierry, avec qui j'ai parlé une demi-heure avant le match, et qui vous salue, mais qui,
bien
pour
évidemment,
des raisons professionnelles, ne peut pas être là aujourd'hui. Il a dû nous lâcher au dernier moment.
Thierry est avec nous,
voilà,
quoi qu'il
arrive. Voilà, par le cœur. Et donc, oui, un match pas terrible, où on n'a pas été très bon. Moi, j'ai surtout été impressionné... Par les erreurs techniques, une quantité astronomique de passes ratées, d'actions approximatives et tout. Signaler que Nantes a bien joué le coup. La stratégie de Comboiré, qu'il a expliqué d'ailleurs...
On peut parler de ce début, de cette entame de match. Ouais.
Voilà, ils avaient choisi de jouer bas, bien sûr, mais d'agresser les joueurs, de faire un pressing tout terrain pour empêcher la relance et qu'on puisse contrôler. Donc ça a mené énormément de pressing sur la défense, à la relance, qui a ralenti considérablement. Peut-être ils avaient en tête le fait de dire que le stade grondait un peu par moment, pas au tout début, mais en début de deuxième mi-temps à 0-0, sur le fait que derrière, tu gardais le ballon, tu te passais le ballon.
Voilà, le score est en resté vierge jusqu'à la mi-temps, mais en un premier temps, il est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés, pour ne pas dire plus, pour justement se créer des occasions, et on manquait de justesse technique et de rapidité dans les enchaînements.
Et on l'a déjà dit plusieurs fois à cette antenne, c'est là que tu vois la limite de mettre Rabiot dans une position offensive, même s'il a été en première mi-temps le meilleur Olympien, mais incontestable, et il a fait un très bon match.
Alors son positionnement également, qui était un peu inhabituel.
Voilà, c'est-à-dire que Rabiot, tu le mets côté gauche, tu joues avec trois défenseurs centraux, une ligne de quatre avec les deux couloirs, Luis Enrique et Merlin, deux milieux récupérateurs, en l'occurrence Bennacer et Højbjerg, et puis tu as deux joueurs offensifs théoriquement créatifs, derrière Amine Gouiri, qui est l'avant-centre, qui sont Greenwood et Rabiot. Et c'est Rabiot, là que tu vois que Rabiot n'est pas un attaquant, c'est un super joueur, il fait un énorme travail, il a une très belle qualité technique, il marque des buts et tout, mais ce n'est pas un créateur au sens où la passe, il a pas ce truc de numéro 10.
C'est vrai, il a un positionnement qui peut mettre en valeur ses coéquipiers, mais c'est vrai que la dernière passe, ce n'est pas...
Voilà, c'est un peu, pour ceux qui se rappellent la Coupe du Monde 2018, le positionnement de Matuidi en faux ailier gauche.
Ouais.
Matuidi est un super joueur qui a beaucoup contribué au titre, mais ce n'est pas un créateur. Voilà. Et c'est sûr que face à une défense renforcée qui, en plus... pressé énormément pour gêner les passes, pour couper les lignes de passe, tu as été en difficulté et tu as eu énormément de déchets, y compris de joueurs aussi expérimentés comme Bennacer, voire Højbjerg, qui jouaient un peu bas et qui donc ont été amenés... parce que le problème de cette défense, on l'a déjà dit...
C'est juste, ils sont allés chercher des ballons pour la construction également.
Voilà. Ouais. Parce que ton meilleur relanceur derrière, c'est Balerdi.
Qui est revenu justement après sa suspension face à Rennes.
Qui a beaucoup manqué à Auxerre.
Absolument.
Mais c'est vrai que Kondogbia a une bonne qualité, mais enfin, c'est pas des super relanceurs dont Højbjerg a tendance à redescendre pour... prendre le ballon à 30 mètres de nos buts et essayer de construire. Et donc, il n'est pas plus haut. Voilà. Donc, les Nantais ont fait un truc que j'ai trouvé très intelligent, c'est un pressing. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce que disent les commentaires. J'ai vu l'équipe, la Provence et même les radios, RMC et tout. C'est au moment où ils ont flanché physiquement... que tu arrivais à les prendre et à les...
Voilà, il est vrai qu'on ait pu bénéficier justement parce que ce pressing, je dirais, tout terrain, mais évidemment qu'à un moment donné, ça
épuise
ça
les joueurs. D'ailleurs, Comboiré a fait ses 5 remplacements, mais les gars, tu sentais... Et les deux buts de l'OM viennent sur des actions... où les défenseurs sont d'un peu en retard et où tu peux utiliser une brèche.
Voilà, aussi ça coïncide avec la sortie, alors je ne sais pas, de Bennacer et l'entrée de Valentin Rongier justement.
Rongier a mené du 109, Bennacer n'a pas été... Après, n'oublions pas qu'il avait été longuement blessé quand il était à l'AC Milan, qu'il est revenu, alors tu joues 2-3 matchs sur l'adrénaline.
Alors qu'en est-il justement de son état de forme? Parce qu'on pouvait s'interroger quant à sa sortie un peu prématurée. On s'est dit qu'après 2-3 matchs, là, que il pouvait jouer un peu plus. Et il n'a pas été si fort, si à son niveau.
Disons que même s'il joue qu'une heure, ce qui était le cas contre Angers ou contre Saint-Étienne, mais qu'il joue à son niveau, c'est un super joueur.
Absolument.
Après, là, il a semblé un peu... Alors après, on sait que des joueurs... Ça avait été le cas de Rongier quand il est revenu en novembre. Après 3, 4, 5 matchs où tu reviens de blessures un peu longues, tu as un petit coup de moins bien.
Ouais.
Et là, il a peut-être ce petit coup de moins bien. Et c'est vrai que Rongier avait la pêche et le jus qu'il avait à amener. Après...
Son entrée a été fort judicieuse.
Voilà, rappelons que l'action où il donne le but à Gouiri... Oui. Il part en profondeur en profitant que personne ne le suit à Nantes. 70e, c'est peut-être la fatigue. Et là, la passe de Greenwood est magnifique, qui lui donne le ballon dans la surface. Il a le temps de contrôler.
Super enchaînement.
Voilà, de voir qu'Anthony Lopez est sorti, il aura du mal. Ce n'est pas un gros frappeur, Rongier.
Ouais.
Donc, il décale Gouiri, qui lui croise le ballon, petit filet, ça fait but. Mais la fatigue a dû jouer... Et puis, le bon appel de Rongier qui a fait une très bonne rentrée.
Oui, tout à fait.
Mais là, Greenwood, il a eu la possibilité, alors qu'avant, moi je l'ai vu en première mi-temps, il a été un peu critiqué À juste titre, Greenwood, parce que des fois, il a joué un peu perso.
Mais on l'a vu sur ses matchs précédents également, oui. Avec des prestations qui n'étaient pas à l'image du talent que nous attendons de lui et de ses compétences footballistiques.
Alors, en début de saison, il a flambé. Là, peut-être qu'il a un coup de moins bien. Mais il y a aussi le fait que, vu que les Nantais ont fait un très gros travail physique, qu'ils étaient très présents... tu n'avais pas d'angle de passe. Donc, plusieurs fois, il a tenté des frappes, il a tenté des trucs individuels, des dribbles qui ne sont pas passés ou les frappes n'étaient pas cadrées, même si en première mi-temps, il en a une très belle qui flirte avec la lucarne de Lopez, croisée pied gauche, travaillée, qui passe à 50 cm de la lucarne. Mais c'était individuel. Et là... En seconde mi-temps, il a eu des possibilités de passe qu'il n'avait pas en première. Alors, je pense que c'est que... D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Comboiré, c'est que les mecs, tu ne peux pas faire un pressing total pendant 95 minutes.
Ah, c'est pas jouable.
Donc, ils ont baissé de pied. Malgré des remplacements, il a fait rentrer des joueurs. Tu es cuit, quoi. Bon, il a fait à la mi-temps, il a remplacé Coquelin... celui qui a joué à Arsenal, qui a joué à Villarreal et tout, qui a 33 je crois ou 34 ans, qui est un joueur d'expérience mais qui revient, il était au chômage, ils l'ont pris en janvier, donc il manque de, il a tenu qu'une mi-temps et son remplaçant
de fort belle bannière,
de fort belle, il a fait une rentrée
bon match,
très,
quoi, Colin, ouais.
très utile, malin, coupant les lignes de passe, récupérant. Il n'a pas pu tenir, il a remplacé. Et le mec qu'il a remplacé est un peu en dessous.
Oui.
Il a moins d'expérience. Et donc, effectivement, ils ont peiné. Ils ont fait un bon match, les Nantais. Et je pense qu'ils devraient s'en sortir en Ligue 1. Parce qu'il y a quand même quelques joueurs de qualité. Et puis, c'est une équipe qui se bat à l'image de son entraîneur.
Oui, avec un entraîneur, justement, qui transpire cette envie de réussite. Et au niveau collectif, je pense qu'ils sont unanimes pour le dire. Hein, ils sont avec lui. Et en ce qui concerne ce match, en tout cas, évidemment que... Il a fallu... Alors, on peut peut-être... j'entends ici et là que l'on me dit « Mais pourquoi on ne tombe pas au but ? Pourquoi on ne prend pas un ballon à 25 mètres ? Qu'on ne tire pas ?» Greenwood, en l'occurrence, il a tenté en première période. Ça n'a pas abouti, mais c'est vrai que peut-être quelques frappes de loin, c'est ce qu'attendent certains observateurs. On essaie combiner.
Ouais. Je pense, Franck. Mm-hmm. qu'on a tenté, mais il y en a eu, quand on regarde bien, plusieurs frappes contrées.
Aussi.
En première mi-temps, mais même en seconde.
Oui.
Parce que les Nantais, c'était les morts de faim, quoi.
Oui.
Ils se jetaient, ils rentraient, et donc c'est très compliqué. Alors, ça peut être utile, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une frappe contrée qui prend le gardien à contre-pied, hein. Voilà, c'est l'intérêt de frapper le 25 mètres, c'est que ça peut être détourné.
Et oui, quand on ne trouve pas de solution...
il faut, ne serait-ce que pour faire monter la défense, pour aller au contre, tu frappes. Et c'est vrai que tu as Højbjerg, tu as Rabiot, tu as Gouiri, tu as Greenwood, tu as quand même des frappeurs. Mais on n'a pas assez fait, et le problème, c'est que tu as trop tricoté, gardé le ballon.
C'est un peu notre marque de fabrique, quelque part.
Et à un moment donné, tu as manqué de vitesse dans les contres et dans les actions.
C'est tout à fait ce que l'on peut reprocher. Enfin, reprocher est un grand mot, mais la vivacité. L'enchaînement de ces situations dangereuses qui peuvent amener avec plus de rapidité et au-delà de la justesse, quoi, pour enchaîner beaucoup plus vite pour arriver au but.
Après, si on revient au dernier match au Vélodrome contre Saint-Étienne, tu marques en première mi-temps. Et ça change
tout. Ça facilite,
tout.
Ça change
si
tout.
Si le but de Rabiot avait été accordé, il a été refusé pour un hors-jeu, où il faut dire à Gouiri qu'il doit se couper les ongles des pieds.
Ouais, c'est la première idée que j'ai eue quand...
c'est les ongles des pieds qui le mettent hors-jeu.
Ah ouais.
C'est le règlement, c'est comme ça. Donc, il est vraiment... C'est une question de millimètres. Si tu marques, c'est plus le même match.
Mmh.
Ils sont obligés d'essayer de se découvrir. Et toi, ça t'ouvre des contres. Malheureusement, c'est pas. Et plus le temps passe, plus eux, ils se replient. Et puis, ils sont en confiance. Et plus toi, tu t'énerves. Heureusement que le stade a pas trop sifflé, c'est pas trop, c'est resté, enfin, ça oui, continue oui. à soutenir. Mais dans un stade qui commence à te siffler si tu n'arrives pas à marquer, ça aurait pu être inquiétant.
Et surtout après la dernière désillusion du match précédent.
Oui, ouais. du match à Auxerre. Ouais, ouais. Et là, c'est là qu'on voit par exemple que l'entrée du jeune Dedic.
Oui, Dedic. Apporté au niveau offensif, pas voilà, mal. Ouais.
A beaucoup apporté. Ah, oui, oui, oui. Alors est-ce qu'il a apporté parce que les Nantais commençaient à être fatigués ou est-ce qu'il est offensivement. C'est vrai qu'il a l'air très dynamique, très péchu et qu'il n'hésite pas à aller au
dribble. Oui, d'ailleurs, il s'est créé une belle occasion également.
Oui, il est intéressant, ce jeune. Par contre, défensivement,
oui.
il fait un peu peur. Hein.
Il est vrai que ce n'est pas sa force première, voilà, le défensif.
Ouais, c'est sûr que le championnat de France n'est pas le championnat d'Autriche, puisqu'il vient du Red Bull Salzbourg.
Ouais, ouais, ouais.
Et que donc il est un peu...
Ah, c'est un contre-attaquant formidable.
Ouais,
qui a tu...
Un très bon contre-attaquant qui en plus peut jouer des deux côtés. Mais il a contribué avec la fatigue nantaise à mettre une pression de malade qui fait que finalement on a...
Donc pour répondre à ta question, probablement un peu des deux qui ont fait que la baisse au niveau physique des Nantais, il commençait à être un peu cuit et on a pu justement profiter, je dirais, des entrées de ces joueurs-là frais et... que ce soit Rongier, Dedic également. Et, bon, il y a à noter, là, il y a peut-être un petit point noir sur ce match-là, la sortie de Murillo. Quoi. J'espère que sa blessure, apparemment, ça n'a pas l'air bien engageant et bien rassurant. J'espère qu'il va se rétablir rapidement, mais bon.
Oui, parce que. Alors, on va dire à nos auditeurs, Amir Murillo qui joue stopper droit.
Ouais.
Dans la défense à 3, c'est claqué visiblement, un claquage. En général, c'est 3-4 semaines.
C'est problématique.
Et
ouais.
Il s'est de très loin imposé, il est sûr défensivement, il est bon offensivement.
Ah, ça devient une valeur sûre de notre défense.
Voilà. Et donc, tu as retrouvé équipe. Un peu de stabilité avec Kondogbia à gauche, qui est quand même expérimenté. Il va falloir mettre un mec à droite. Il a essayé de le remplacer par Lirola. La 26e quand il est sorti.
Qui malheureusement n'a pas été trop encouragé par le public. Hein. Il n'a pas été trop...
Ouais. C'est-à-dire, Lirola, c'est un latéral dont la principale qualité, c'est les jeux offensifs.
Oui.
Voilà, c'est un joueur très offensif. Tu le mets stopper.
On aime sa polyvalence, voilà. Mais il ne faut pas exagérer non plus.
Voilà, il serait rentré à la place de Luis Enrique, piston droit, ça va, c'est son poste.
Absolument.
Là, il est rentré défenseur central. Et donc, après, à la fin du match, il a fait rentrer Luis Felipe.
On l'a découvert sur le terrain, oui.
Mais que tu ne peux pas juger. Il a joué un quart d'heure. Voilà,
Ramos différent que le Paris Saint-Germain. Ouais. Ouais. Luis Felipe Ramos.
Mais
ouais.
C'est quand même, tu sens quand même que c'est un défenseur costaud, sorti d'Italie. Voilà. Par contre, il n'a pas été mis en danger. Parce que ça a correspondu à quelques minutes près à la sortie de Moïse Simon, l'attaquant nigérian de Nantes, qui est un très bon joueur.
Il n'avait pas vraiment d'opposition face à lui.
Il a eu un garçon qui s'appelle Elia, que je ne connaissais pas bien, quoi, qui est combatif, qui s'est battu, mais qui n'a pas le même niveau de dribble déroutant que Simon. Donc tu ne peux pas le juger sur le quart d'heure qu'il a fait. Mais c'est sûr que si Murillo est absent 3-4 semaines, ça va nous poser problème.
Ça, c'est un souci parce qu'on arrive dans la ligne droite fin de ce championnat, là, dimanche. C'est demain, quoi.
Oui, on joue samedi prochain contre Lens
et après,
on va à Paris.
Eh oui, paraît-il.
Dans un match important. Et voilà, où il ne faut pas se mettre de pression, mais ça ne va pas être un cadeau. Et là, ben voilà quoi. Donc, ça peut être une sortie préjudiciable. Après, moi, je pense qu'on a des possibilités. Tu peux Luis Felipe au moins début de match. Tu peux faire reculer Rongier, qui est un bon.
Également, oui, qui a la possibilité de jouer un peu plus derrière.
Un peu plus derrière.
Défensive. Mais...
Jorge Sampaoli l'avait fait.
Ouais, il avait essayé, mais bon.
Tu as des possibilités. Mais c'est vrai que c'est un coup dur. Voilà. La sortie de Murillo, c'est un coup dur.
Ouais. Penses-tu, j'entends ici et là, que. Alors peut-être pas cette année, ou essayer de changer peut-être de tactique en fonction des joueurs présents et restants pour la fin de ce championnat, je ne sais pas, une possibilité par rapport à certains changements qui seraient bon, plus ou moins judicieux et en fonction.
Alors le changement, c'est revenir à une défense à 4
Voilà, ouais.
avec un milieu à 3, avec donc Bennacer ou Rongier, Højbjerg, Rabiot, et 3 attaquants, ce qui voudrait dire mettre un autre offensif, Jonathan Rowe, ou peut-être Guiri ou Aminarit, il faudra bien
Il est
le
vrai
relancer,
que nous
voilà.
avons pas mal de joueurs dans ce
Voilà,
secteur.
qui pourrait jouer avec une pointe qui pourrait être Mopé. Guiri joue en plus sur le côté, puisqu'il jouait ailier gauche à Rennes.
Ouais.
Voilà, c'est une idée. Le problème, est-ce que ta défense à 3, tu as trouvé un équilibre
Ouais.
avec des joueurs de couloir, Luis Enrique en particulier à droite, qui font un très gros travail défensif ou offensif. Est-ce que tu risques pas de déstabiliser ta défense? Parce
C'est
que
la
la
question.
question, c'est
Ah
qui
ouais.
à côté de
Et
Balerdi?
c'est ça.
Kondogbia, c'est un peu lent, et puis c'est pas une défenseur de formation pour être côté gauche. Luis Felipe Ramos, c'est un droitier, puis ça fait depuis le mois de juillet, il n'avait pas joué,
Ah, il est
donc
vrai que pour
c'est un
changer de
risque.
configuration, passer à 4 derrière serait certainement compliqué à mettre en place. On risque de tout chambouler.
Voilà,
C'est un risque.
et de le payer, donc. Tu peux peut-être tenter contre Lens parce que
Oui.
normalement c'est une équipe en difficulté actuellement, mais il faudrait pas non plus les
Oui.
relancer. Mais tu fais ça à Paris, tu exploses. Voilà, tu te fais piétiner. Donc il faut voir. Moi je pense pas que De Zerbi prendra le risque de changer la saison prochaine. Si tu peux embaucher un très bon défenseur gauche
Très
à
probablement,
côté de Balerdi, tu peux tenter
oui.
le coup avec Kondogbia qui dépanne. Et qui n'est pas très rapide, c'est compliqué. Parce que hier, il a fait de belles interventions défensives, mais il n'avait pas des Dembélé, des Barcola ou des
Voilà.
Kvaratskhelia en face de lui,
Ça,
quoi.
voilà, faut voir
Voilà,
l'opposition
hein,
que
c'est
tu as en
pas.
face également, c'est ça, tout à fait
Voilà.
d'accord avec toi.
Et tes hommes de couloir sont travailleurs et combatifs, mais ni Merlin, ni Dedic, ni Luis Enrique de l'autre côté ne sont assez bons
Voilà, les
défensivement.
retours défensifs, même si
Voilà.
Enrique ne démérite pas par ses efforts démultipliés, il est évident qu'au niveau défensif, les Merlin, Dedic et compagnie, et Enrique ne peuvent pas pallier, je dirais, tous
Oui.
les contres. C'est trop compliqué. Ouais.
Jouer arrière droit, c'est
Ah
compliqué.
oui.
Voilà. Donc, je ne pense pas, moi, que De Zerbi prendra ce risque. Il aurait eu le temps de le travailler en préparation, de faire des essais, peut-être. Là, tu es dans le sprint final,
Oui,
il faut
là,
accrocher
véritablement, ce serait.
le podium parce que la Ligue des Champions est nécessaire économiquement. Je ne pense pas qu'ils prennent ce risque. Mais c'est vrai que ça nous donnerait un élément offensif pur de plus qui pourrait être utile.
Je pense qu'on pourrait
Voilà.
s'orienter sur une probable, plus que probable, qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, justement, avec une base de travail peut-être, je dirais qu'on pourrait commencer à voir et développer, avec une base de joueurs. Hein,
Voilà, mais là, c'est vrai qu'il te manque trop une seconde centrale
ouais.
rapide, parce que Balerdi, il a quand même fait 2, 3 retours très intéressants, et tu peux pas lui demander d'une qualité de relance et lui demander aussi de couvrir, il peut pas tout faire. Donc, il te faudrait un second, et Kondogbia, il dépanne, il fait du très bon boulot, mais tu le vois que c'est pas son poste, et c'est un problème de rapidité. J'ai regardé Paris contre Lille.
Oui.
Le Colombien, la Pacho, que Paris a acheté 45 millions à Francfort, il est
Oui.
rapide. Voilà. Quand
Oui.
les mecs partent, il suit en profondeur, il n'est pas lâché.
C'est
Kondogbia,
ça.
il a un déficit de vitesse qui, dans le haut niveau, peut être, alors, pas contre Saint-Étienne ou contre Montpellier,
J'entends bien,
non,
mais...
mais contre une bonne équipe, tu vas à Lille, tu vas à Monaco, des
Ouais.
joueurs rapides.
Déjà, ne
Voilà.
serait-ce qu'en Ligue 1, dans notre championnat, on aurait d'énormes difficultés en jouant de la sorte avec
Voilà.
des
Donc,
joueurs qui ne
je
sont
ne
pas à
pense pas
même.
qu'il
Ouais.
changera. Et il a trouvé son équipe,
Oui.
son équilibre. Je pense qu'il va rester. Bon, en fait, il te reste, on va le dire, hein, 5 matchs à l'extérieur à jouer.
Ah ouais.
Il y a Paris, il y a Monaco, il y a Lille, ça c'est galère. Il faudrait essayer de ramener au moins un match nul de Monaco ou de Lille, hein, c'est faisable. Après, tu vas au Havre. Pour
gagner, hein, bien entendu.
Voilà, tu vas à Reims et au Havre. Là, il ne faut pas déconner, il faut gagner. Quoi. Ben, oui. Sinon, l'Europe, tu risques de.
Je pense que le Joker, on l'a déjà grillé, oui, le match précédent face à Auxerre. Ouais.
On l'a grillé à Nice, on l'a grillé à Auxerre. Ben, voilà. Donc, on ne l'a plus. Et au Vélodrome, il faut faire le plein.
Ben justement, parlons de Nice, hein, qui nous talonne à 3 points, et donc il ne faudrait pas qu'ils leur prennent des idées de peut-être nous passer devant. Quoi.
Ben c'est-à-dire, moi je pense que le problème avec Nice, c'est une équipe alors, qui a complètement raté sa Coupe d'Europe.
Je pense qu'ils n'ont pas voulu participer comme ils se devaient.
35e sur 36 en Ligue Europa.
Ils ont fait l'impasse.
Voilà, c'est que Lyon, ils ont fini 6 ou 7e. Ouais. C'est que tu n'as pas joué, quoi. Voilà. Tu as laissé perdre. Du coup, ils sont concentrés sur le championnat.
Sur le championnat, avec d'autres ambitions qu'en Ligue Europa,
voilà,
en l'occurrence.
Ils avancent masqués parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là. On pensait Monaco, Marseille et Lyon.
Oui.
Et on les trouve troisième. Et donc, l'appétit venant mangeant, ils n'ont pas de pression. Ils ont des mecs revanchards. Ils récupèrent des blessés.
Aussi.
Ils ont des joueurs qui reviennent de blessures et qui sont revenus. Donc, à un moment donné, il faut faire attention à cette équipe qui peut être... Alors après, le problème, c'est que tu as Monaco aussi, qui n'est pas
et
très
voilà,
loin.
Monaco est à 6 points, donc
voilà,
de nous.
Voilà, on joue à Monaco. Oui, si tu perds à Monaco, tu es à 3 points. Voilà. Donc, il faut faire attention parce qu'on rappelle qu'en Ligue des Champions, il n'y a que les 3 premiers qui sont qualifiés.
Il est vrai.
Le quatrième, il a 2 matchs de barrage.
Ouais, ça...
Et matchs de barrage, on le sait, l'année dernière avec Panathinaikos, c'est compliqué, hein. Même si tu avais dominé, que tu aurais dû passer, ben, tu n'es pas passé. Voilà. Alors, pas de chance, un pénalty refusé, tu perds au tir au but, d'accord. Tu peux me trouver, mais ben, tu n'es pas passé.
Ça te démolit une saison, ça a été le cas en tout cas à
voilà,
ce moment-là. Ouais.
C'est compliqué, ouais. Et cette année, Lille est passé, mais ils ont joué le Fenerbahçe de José Mourinho.
Aussi.
C'est des matchs compliqués, ce n'est pas facile d'aller jouer là-bas. Donc... Bravo à Lille, hein, ils se sont bien qualifiés. Mais je veux dire, c'est compliqué. Donc, tu ne peux pas recruter sans savoir si tu y es ou pas. Financièrement, voilà.
Il est vrai que, comme tu disais précédemment, c'est vrai que le pactole financier qu'ont reçu les équipes qualifiées en Ligue des Champions, évidemment, a contribué aussi à pérenniser un effectif déjà présent dans ces clubs-là, hormis, je dirais, Brest et compagnie. Mais bon, il se trouve que, bon, ben, il faut rester dans cette optique du futur. Proche, mais voire du présent.
Avec les problèmes des droits télé où sommes ne sont pas importantes et où tout le monde voit venir que DAZN va se tirer en décembre, ils vont pas. Ils ont une clause qui leur permettra de résilier et à mon avis, ils vont le faire.
Ouais, mais en interdisant, je dirais, la Ligue de prendre.
De prendre des contacts pour les remplacer.
Ah ouais, ça je trouve ça voilà. Quand même un peu.
Il ne fallait pas signer cet accord. Maintenant, en décembre, ils peuvent partir.
Oui.
Moi, je pensais qu'ils comptaient partir fin mai, après la fin du championnat, quand ils ont demandé 500 millions d'euros de dédommagement, qu'ils attaquent au tribunal. Comment ils ont dit que c'était... ils avaient escroqué sur le produit et tout. Bon, moi, je pensais que c'était du chantage pour négocier un départ fin mai.
Alors, il y a plusieurs facteurs. La Ligue, déjà, de ne pas faire des promesses ne peut pas tenir. Et également, aux présidents de club, aux investisseurs, de ne pas penser, justement, que ça va tomber du ciel, quoi. Je dirais que les recettes doivent venir, on doit avoir tant d'argent, etc. Et faire des bêtises au niveau financier, comme beaucoup de clubs l'ont fait au dernier mercato, et se séparant de pas mal de joueurs, en pensant toucher de l'argent, etc.
Oui, parce que on regardait les débats hein, sur Vincent Labrune. Nous, à Marseille, on le connaît bien. On l'a subi pendant des années. Il a annoncé qu'un accord avec beIN Sports, 700 millions, et tu te retrouves avec même pas 500. Quoi.
Eh oui.
Donc, c'est quand même un gros trou. Et il y a des gens qui ont anticipé de l'argent qu'ils n'avaient pas. Et tu te retrouves avec des clubs qui ont été obligés au mercato alors qu'ils étaient en galère et qu'ils auraient dû recruter Ce qu'a fait Lyon l'année dernière, ils étaient 17 ou 18e, ils ont recruté 7-8 joueurs, puis des joueurs de qualité. Hein. Ils ne sont pas allés chercher des peintres, ils sont allés chercher des bons joueurs. Et les mecs, tu regardes Montpellier, ils vendent leur ligne d'attaque, hein, leurs trois meilleurs attaquants. Ils se retrouvent avec Delors qui revient et qui est à la rue,
ah ouais,
et
si
un jeune de 19 ans qui sort de National 2 et qui balance comme ça des merdes de toi.
Arriver à équilibrer des comptes un peu officieux.
Voilà, donc, tu as stabilisé le budget, mais tu as tué ton équipe.
Tu as tué ton équipe.
Hein. Montpellier, ils sont en Ligue 2. Quoi. Mm-hmm. Et il y a Reims, on va aller chez eux après le match à Paris, on va jouer à Reims. Tu vends tes deux meilleurs joueurs, je ne parle même pas de Lens qui en vend 5.
Ah oui.
Donc c'est trois capitaines.
Pareil, équilibrer le budget en fin de saison, voilà, et Samba, là tu perds le bénéfice de ton travail la saison. Ouais.
Samba, Danso et Frankowski, c'était trois capitaines.
C'est pas rien quoi.
C'est trois leaders, c'est ton meilleur passeur, ton patron de défense, c'est ton gardien de but et capitaine.
C'est vrai que Lens, c'est vraiment, c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi.
Alors je comprends Kousanov, hein, tu l'as payé 100 000 euros en Biélorussie, tu le vends 40 millions à Manchester City.
Très bien.
Bingo. Mais les trois autres, au moins, ils finissent la saison. Quoi. Ben ouais. Et même Pereira da Costa, c'était un bon joueur de rotation, c'était un créateur, c'était un joueur intéressant. Oui. Ils l'ont vendu à MLS. Voilà. Donc, oui, ils ont assuré leur fin de saison, ils ont assuré l'année prochaine, le budget, ils ont comblé. Mais sportivement, tu ne peux pas demander à Will Steel d'avoir une qualif européenne quand tu lui as enlevé 5 joueurs au mercato. Quoi.
Très compliqué d'avoir des ambitions, quelles qu'elles soient, européennes en l'occurrence, quand justement on fait les choses à l'envers et qu'on budgète mal une idée et un projet. Quoi.
Et c'est un truc qu'on voit en Ligue 1 et même en Ligue 2 d'ailleurs, où tu as des clubs qui se retrouvent confrontés à la réalité économique. Et tu as signé des gros contrats où tu as des joueurs moyens qui ont des gros salaires. Et voilà, tu n'es pas le PSG, tu n'as pas le Qatar derrière, tu ne peux pas assurer. Quoi.
Oui.
Et moi, je pense, on en parlait hors antenne tout à l'heure, sur le pétage de plomb de Longoria, que c'est quelques jours après être allé à Boston voir Frank McCourt, qui a dû lui rappeler que les finances, que la qualification Ligue des Champions était obligatoire. Est-ce que c'est la seule explication ? Sûrement pas.
Non, mais en tout cas, je dirais, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et
c'est pas une excuse non plus, mais ça peut expliquer que le mec, il a une telle pression qu'il a craqué. Alors en plus, c'est pas le pire match en termes d'arbitrage.
C'est ce que je voulais souligner, parce qu'en fait, ce match-là, parfois, je m'inscris en faux contre certaines décisions arbitrales, etc., qui je trouve complètement déplacées. Mais là, quand face à Auxerre, on a perdu ce match parce qu'on devait le perdre. Ils étaient meilleurs que nous, point final.
À mon avis, il y avait un pénalty sur Merlin. Parce
que je pense le pense aussi.
Il y a une action très, très litigieuse. Mais après, le match, tu as été dominé, ils ont été meilleurs que toi, ils ont
tout
gagné.
Tout simplement.
Voilà. Si tu avais été meilleur, tu aurais gagné. Ou tu aurais ramé, tu aurais fait un match nul. Et là, autant il y a des matchs où les critiques sur l'arbitrage étaient justifiées, autant à Auxerre, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mm-hmm. Quoi. Voilà. Même si l'erreur énorme, c'est d'avoir désigné M. Stinat pour arbitrer le match.
On en revient à cela.
Voilà. Alors qu'il t'a tapé dessus dans le match contre Lille de Coupe.
Voilà, en tant que quatrième arbitre, signaler une présence ou un geste déplacé de Mendacia, alors que le président du LOSC, lui, par contre, avait été plus véhément envers l'arbitre.
Le président du LOSC, c'est lui qui a commencé, a mis le feu.
C'est un coutumier du fait.
Il n'avait même pas signalé dans son rapport.
Ouais.
Et sachant, c'est la raison de la gueulante de l'OM, pour le rappeler à nos auditeurs, que Benassia a fait appel à sa suspension et qu'il passe dans 15 jours en commission d'appel. Ouais. Donc tu vas te retrouver en face de l'arbitre qui a fait le rapport. Et c'était vraiment très malsain de le désigner pour arbitrer, alors qu'il y avait trois matchs.
Malvenu et malsain.
Et là, on a mis Mme Frappard qui a fait un arbitrage correct, même si on peut critiquer telle ou telle décision.
En regardant le match à la télévision, car je ne suis pas allé au stade, mes horaires du matin sont assez particuliers.
Oui.
Mais de ce fait, j'ai pu revoir le match à plusieurs reprises. Certaines décisions m'ont un petit peu intrigué de la part. Or, je l'ai trouvé pas intimidée, mais elle a eu un
petit peu, en début de match, ça allait à peu près.
En seconde
mi-temps, quand tu butais à 0-0, que
ça commençait à devenir un peu plus
elle a été un peu en difficulté, mais bon, elle a fait un arbitrage très correct.
Oui.
De toute façon, on avait déjà été arbitré plein de fois par elle, on n'a pas eu de problème particulier. Même quand on avait perdu, on n'avait pas de... Voilà. Là, moi, je lui reprocherais... que sur une ou deux actions, il y a eu des tacles à retardement ou des fautes d'anti-jeu, qu'elle aurait dû sortir des cartons.
Je pense aussi.
Je pense à Palois qui
a failli le découper à Greenwood.
Oui, qui a découpé Greenwood. En première mi-temps, il aurait pu se prendre un jaune. Tu laisses finir l'action et après tu lui mets un jaune.
Voilà, un jaune sur Holberg qui n'était peut-être pas le premier sur le ballon. Enfin, bref, ça se discute.
C'est des bricoles, c'est pas grave.
Mais ce qui est notable et ce qui est appréciable de la part de cet arbitre en l'occurrence, Madame Frappard, c'est qu'elle a justement, elle sait communiquer avec les joueurs et il n'y a pas de fermeté. Je dirais, c'est moi l'arbitre, c'est moi qui décide et on n'en parle plus. On peut parler, on peut expliquer la raison pour laquelle.
Ce que tu dis, Franck, c'est important parce que moi, j'ai vu un truc en première mi-temps, il met un carton à Højbjerg pour un tacle musclé. En fait, il se jette, je crois que c'est avec le penant, le joueur de Nantes.
C'est ça, ouais.
Il se jette les deux sur le ballon, il y en a un qui touche et il se heurte, quoi. Les deux, le pied à l'avant. Hein.
Donc les deux auraient pu prendre le jaune.
Voilà,
je
pense que comme le penant a touché le ballon avant, c'est une question de centième de seconde, elle a mis le carton à Højbjerg. L'autre doit être surpris parce qu'ils viennent de Première Ligue en Angleterre, on ne sait jamais...
Ce n'est pas des actions que l'on siffle.
Mais bon, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'après elle lui a parlé deux, trois fois et à la fin du match, à la mi-temps, elle est venue lui parler, elle a discuté, ils se sont... Et ça, c'est intelligent parce que ça... Voilà, elle lui dit « j'ai vu, mais machin », ce qui veut dire pour le joueur que tu as pris un carton, allez... Il faut calmer parce que le match, il était engagé. Hein. Il y a quand même eu les Nantais.
Parce qu'après, en seconde période, c'était assez musclé.
Et même en première, ils en voient. Oui. Pas loin, il ne faut pas être devant.
Nous le connaissons au-delà de sa réputation.
Voilà. Mais disons que tu expliques, si tu fais une faute, pas un attentat, je ne vais pas te mettre un deuxième jaune. Parce que c'est le problème qu'il y a eu à Auxerre.
Oui.
Ou sur une faute, certes, mais le mec touche le ballon et dans le mouvement, il vient heurter l'Auxerrois, tu as mis un deuxième jaune qui expulse. Si c'est un premier jaune, ça va. Quand c'est un deuxième qui a une demi-heure de la fin, tu mets ton équipe à 10, tu réfléchis avant de le mettre. Mais... Et je pense qu'être allé parler, le message, il est là. C'est-à-dire, ça va, mais fais attention, mais bon, ça va. Voilà. Alors que... Tu en as qui ne te parlent pas, qui sont extrêmement stricts.
Ce comportement-là que j'ai vraiment du mal. Et donc, j'aime beaucoup la manière dont, justement, a été appréhendé ce match par Madame l'arbitre. En tout cas, parce qu'elle sait, justement, se justifier, expliquer et pouvoir communiquer avec les joueurs.
Elle fait preuve de pédagogie.
Absolument.
Elle parle. Mm-hmm. Et moi, je me rappelle, il y a 20 ans, 30, des arbitres qui parlaient énormément, qui discutait, qui parlait aux joueurs.
C'est fondamental.
Ça calme, voilà. Ça calme. L'arbitre qui prend des décisions, qui arrive, le carton brandi, qui fait du théâtre, c'est jamais très malin, quoi. Voilà. Après, ça n'explique pas et ça n'excuse pas des dérapages. On l'a vu encore.
Parce que c'est contre-productif, justement, ce comportement-là de « c'est moi l'arbitre, c'est moi qui décide, c'est ma décision et je n'ai pas à t'expliquer ». Mais ça, c'est contre-productif comme…
Moi, je renvoie toujours, Franck, on en parle souvent, au rugby, où l'arbitre, il explique, y compris, il perd 30 secondes, mais il t'explique, il calme, il laisse retomber. Que certains arbitres cow-boys, comme on appelle, qui sont très autoritaires, ne parlent pas, c'est ce qui manque à certains. Alors, ça n'explique pas.
Au-delà de la culture rugby qui est différente de celle du football, également, je dirais, cette manière de procéder de l'arbitrage qui est totalement juste et judicieuse à ce moment-là. Et les joueurs écoutent et sont attentifs. Et évidemment, si. Ils ne comprennent pas, ils reculent de 10 mètres bien souvent dans les positions de jeu.
C'est vrai que ça, c'est dans les trucs sur l'arbitrage. Moi, ce que j'apprécie en rugby, Alors, c'est vrai que l'ambiance, tu as raison, Franck, l'ambiance, c'est pas la même, en particulier en tribune. C'est pas.
Aussi, surtout.
C'est pas, voilà. Mais cela dit, moi, j'ai été en tribune à Toulon, je suis allé voir les matchs du RCT et compagnie. Ouais. C'est chaud, c'est. Alors là, en parlant de vulgarité, je te dis pas ce que tu entends. Et c'est chauvin.
Oui.
Mais tu me feras pas croire que à Agen, à Montauban,
oui,
à Bayonne,
ça reste passionné,
voilà.
Voilà.
On est dans les salons parisiens où on débat courtoisement.
Oui.
Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une culture différente. Oui. Mais c'est vrai que par exemple, l'arbitre signale une faute, il laisse continuer l'action. Oui. Si l'action ne donne rien, tu perds le ballon, il revient à la faute. Et sur certaines fautes d'anti-jeu, comme on a vu, ouais. Alors les Nantais, c'est pas méchant, les mecs se battent pour le maintien, hein. Mais tirage de maillot, des joueurs qu'on découpe ouais. par derrière, alors qu'ils ont. Voilà, ou des fautes d'anti-jeu où le mec, il fait le 1-2, il part. C'est, d'ailleurs, elle a mis le carton, on voit Nantais qui a ouais. fait ça à Rabiot. Il appelle le 1-2, il passe le ballon, il avance, le mec, il vient, il le percute volontairement. Mmh. Et il n'y a pas de deux, puisque le mec, il est par terre. Et là, elle a sifflé coup franc, elle a mis le carton, hein, il faut le dire. Mais sur des trucs comme ça, il y a beaucoup à apprendre de laisser jouer, mais de revenir oui. à la faute.
Après, il y a toutes sortes d'anti-jeux que les joueurs, justement, opèrent en ce sens, gagner du temps, etc., de différentes manières. Là, il est question, j'ai lu ça, une programmation sur l'année prochaine qui va être mise en vigueur concernant le gardien de but qui temporise trop, comme ça a été le cas hier au soir. En tout cas, côté Nantais.
Oui, Lopez.
Ouais. Ouais, pour ne pas le citer. Alors, on pourrait le sanctionner d'un coup franc indirect s'il tergiverse trop avec le ballon, qu'il le garde trop en main avant de le relancer. C'est pas le cas, mais bon, il est possible et fort probable que dès l'année prochaine, d'ailleurs je crois que ça va être acté, que si le gardien reste plus de 10 secondes avec le ballon en main sans le relancer, ben, il pourrait être sanctionné d'un ouais. corner. Ça va passer à la board.
Ouais.
Enfin, on verra ça très prochainement, d'ici la saison prochaine. Mais bon, c'est une éventualité, évidemment, que... Bon, heureusement que les gardiens ne peuvent plus, je dirais, recevoir le ballon à la main quand il y a une passe en retrait de leur partenaire. Sinon, les matchs seraient plus que hachés.
Oui, là, ça voilà. serait vraiment... Mais après, moi, ouais. je ne suis pas forcément pour, parce que
d'accord.
tout simplement, le corner ne veut pas dire but.
Ben non.
C'est même pas un coup franc. Un coup franc est plus dangereux qu'un ouais, corner. Ouais. Et deuxièmement... tu peux avoir le mec qui vient de sauter, il est à terre tant qu'il se relève, les équipiers ne sont pas démarqués, il peut tenir 9-10 secondes, et ce n'est pas pour ça que ça mérite une sanction, alors qu'il y en a qui vont regarder la montre, et voilà. Donc je ne pense pas que ce soit très intéressant.
Difficile d'être juste et de
voilà.
mesurer
Par
cela.
Par contre, il ouais. Y a des arbitres qui ont su mettre des cartons, pour un mec qui fait du gain de temps. Et là, c'est beaucoup plus, à mon avis, marquant, parce
oui.
qu'un carton, si tu joues au con, tu en prends une seconde, ça fait un rouge.
Ah
voilà.
oui, là, ça marque réellement, justement, ça impacte
voilà.
ce type
Mais
de décision.
Bon, ouais. Nous verrons bien. Pour revenir un peu à l'OM, match moyen,
ouais.
Bonne combativité, on s'est bien battu, on est arrivé à gagner, on a marqué, espérons. C'est ce que dit De Zerbi, d'ailleurs. Après match à DAZN, il a dit ça. Il a dit « Espérons que ça va nous relancer mentalement. » Parce que moi, j'ai trouvé l'équipe assez nerveuse en début de match.
Je suis assez d'accord voilà. avec toi, ce qui, évidemment, implique une première mi-temps assez moyenne. Alors, c'est vrai qu'on parle mental, mais je pense que le mental, avant toute chose,
ouais.
eh ben, il met en exergue ce que tu vas produire
voilà.
sur le terrain.
La semaine dernière, tu as été très mauvais à Auxerre.
Ouais.
Tu as tellement pris avec l'histoire de Longoria
oh là.
Que tu avais une pression terrible. Et surtout... c'est que tu marques pas. C'est pour ça que le but refusé
ouais.
à Rabiot sur la passe de Guiri hors jeu de quelques millimètres, c'est important parce que tu aurais marqué, ça te libère.
Ouais, ça aurait pu changer
voilà.
le contenu du match.
Voilà, et plus
fait,
tu Nantes tient le 0-0, plus il commence à avoir des contre-attaques dangereuses, parce que les mecs se mettent à y croire. Et plus toi, tu commences à avoir les pieds lourds et la tête qui vrille, quoi. Et heureusement qu'on a su marquer, qu'on a su... Parce qu'on a entre Hoiberg, Rabiot, Rongier, Benacer, des mecs d'expérience, oui, et de métier, on a suffisamment de bouteilles pour que les mecs ils paniquent pas. Mais tu peux paniquer, t'énerver et puis te faire et lâcher des points contre Nantes aurait été catastrophique.
Oh que oui, voilà. Plus que préjudiciable. On a senti la libération du groupe au-delà de l'équipe lors du but de justement de Guiri.
De Guiri, oui. Voilà, oui, oui, oui. Et donc c'est important parce qu'après on reçoit Lens. Si tu balances, tu vas à Paris, mmh, en sachant que bon, tes chances sont faibles à Paris. Après, il faut toujours y croire, il faut toujours tenter. Mais enfin, moi, je vous disais, j'ai vu.
On n'est pas à l'abri d'une réussite, voilà, d'un match positif, voire accrocher un point. Hein.
Oui, moi, je me rappelle, il y a 5-6 ans, c'était un but de Tovey, on avait gagné 1-0 au Parc.
Oh oui, oui,
c'était
souviens.
Déjà le Qatar.
Ouais.
Et on avait de la réussite. Hein, on était passé par le petit trou de la serrure. Ouais. Mais c'est faisable. Mais quand j'ai vu le match contre Lille, costaud.
Ils sont sur une autre planète.
Ah oui, oui.
On n'est pas dans le même championnat, c'est pas
et
possible.
On en parlait hier, ouais, soir en tribune avec les collègues. Quand on regardait qu'on n'arrivait pas à tromper cette équipe de Nantes, il faudrait renforcer devant. Tu regardes ton banc, tu as Mopé, tu as Rowe.
Oui.
Alors j'aime bien les deux. Rowe, c'est un jeune d'avenir. Mopé, c'est un bon guerrier combatif. Mais tu te dis, je mets les deux. Voilà quoi. Alors que Paris, ils ont Doué, ils ont Kvaratskhelia, Barcola, Gonzalo Ramos.
Ils ont la possibilité de mettre, voilà, sur le terrain une autre équipe, d'en mettre deux.
De très haut niveau, ah ouais, ils peuvent faire entrer les remplaçants aussi bons que les titulaires. Toi, tu n'as pas. Quand tu regardes ton banc, il sort Murillo sur blessure, tu es emmerdé pour le remplacer, quoi. Donc, je veux dire,
ça a été un souci. D'ailleurs, nous allons voir les matchs suivants, car apparemment, oui, son absence risque d'être prolongée.
Plusieurs semaines, ouais, on va voir comment De Zerbi biricole.
Ouais.
Et donc, ça, c'est un vrai problème.
Oui.
Ce qui fait que tu peux faire le pressing 70 minutes et faire entrer 4 ou 5 mecs frais de grande qualité. Quand tu vois le banc qu'ils ont, c'est au milieu Fabian Ruiz, Zaïre Emery, Neves, Vitinha. Enfin,
excusez du peu.
Ah ouais, c'est énorme. Quoi.
Ce qui n'empêche pas une croyance personnelle, j'ose espérer, au-delà du malentendu, comme disait Michel Blanc,
ouais,
qu'on ouais, puisse obtenir un résultat là-bas. Et
voilà,
pourquoi pas.
Et pourquoi pas, on va essayer. Par contre, le match important, ça sera le week-end d'après à Reims.
Et oui.
Tu vas à aussi. Reims, qui est en grosse difficulté, il faut prendre 3 points.
Oui, oui.
Parce qu'il faut rester sur les 2-3 premières places pour une qualif directe en Ligue des Champions. Ça veut dire aller chercher des points et ne pas perdre des points que tu dois gagner. Quoi.
Optimiser, voilà, et faire au mieux, c'est-à-dire gagner tous les matchs que nous pouvons gagner. Et il faudra voir Monaco également.
Monaco et Lille, parce que Lille...
Il faudra disputer ces deux matchs et les gagner pour ne pas dire
voilà,
plus. Ouais.
Monaco, c'est talentueux, mais c'est des fois un peu irrégulier.
Ouais.
Lille, c'est costaud.
Oh que oui.
Lille, c'est méchant, et si, voilà, on les rencontre à, je crois, 4 journées de la fin, ou 3 journées de la fin.
Ouais, c'est ça, oui. 3
journées. Ça va pas être commode.
Oh, non.
Et donc, il faut avoir un petit matelas pour être tranquille, voilà, quand tu vas. Ça veut dire qu'à la maison, il faut faire le plein, parce qu'on n'a pas de gros adversaires à la maison.
Ben, commençons hein, par Lens, la prochaine
voilà,
journée.
On a Lens, on va recevoir Brest, on ouais, va recevoir... Montpellier, voilà, on va recevoir Rennes.
Bon, oui, voilà, pour la 25e journée,
Toulouse
Monaco
aussi, voilà,
ira jouer à Toulouse, voilà, Paris jouer à Rennes, ils sont dans une autre catégorie, on l'a déjà dit, Lille recevra Montpellier, et Nice jouera face à Lyon. Donc voilà, espérons pour une fois que ben, le match nul serait plus que souhaitable.
Ne me dis pas que tu vas supporter Lyon, mais
non,
bon,
je dirai pas
loin,
ça, ne me fais pas dire ce que je...
Pas loin, on n'est pas loin.
Mais ça m'a effleuré l'esprit.
Un bon match nul, oui, nous arrangerait, voilà. Mais voilà, donc on va voir. Mais ce qu'il faut, c'est se concentrer sur nous et il faut arrêter de lâcher des points. Parce que moi, je me rappelle, il y a eu des Raymond Goethals, notre regretté entraîneur belge, qui était l'entraîneur
notre
de la Ligue des Champions. disait toujours qu'un titre se gagne en championnat, hein, se gagne sur les matchs que tu perds pas à l'extérieur, voire même à domicile. Quand tu arraches un match nul, c'est un point. Et puis des fois, le point, ben, il te fait, voilà, à la fin de la saison, il est là, il est important. Et ne pas lâcher bêtement des points comme on l'a
voilà
fait.
Voilà, quoi qu'on a connu la période de la victoire à deux points.
Oui, voilà, mais c'est vrai qu'on a lâché des points stupides cette année, à la maison en particulier. Ben, ces points-là, si tu veux être sur le podium, il ne faut pas les lâcher.
On ne reviendra pas en arrière. Voilà. À présent, il faut aller jusqu'au bout sur les 10 matchs qui restent à disputer, donner le maximum et tout gagner. Ce sera peut-être
si
pas possible.
Si tu
ne
veux pas être obligé d'aller gagner à Paris, à Monaco ou à Lille, qu'un match nul te suffit parce que voilà... il faut les points, il ne faut pas les lâcher à la maison.
On ne va pas compter sur les mauvais matchs de nos adversaires. Il faut compter sur nous-mêmes et réaliser et gagner.
Voilà, et nous verrons bien en espérant que. Et on tiendra nos auditeurs au courant, mais je pense qu'ils seront au courant en regardant la télé et les journaux.
Oh que oui.
Et avant d'avoir l'émission. Mais il ne faut pas lâcher parce que ça serait vraiment dommage cette année. Y compris pour la dynamique la saison prochaine de ne pas être dans les trois.
Et puis j'ai pris une décision qui n'est pas très récente, qui date, mais qui revient au galop. J'ai décidé de garder le sourire et de garder le plaisir et l'envie.
Non, mais je pense qu'on a, on a une équipe costaud. On a jeté les bases d'une équipe pour l'année prochaine en commençant à en voir au milieu en particulier des remplaçants. Tu te dis qu'avec 3-4 renforts intéressants, parce qu'après, tu n'as pas l'effectif pour aller en Ligue des Champions.
Ça, il faudra étoffer cet effectif et le renforcer.
Si tu as 8 matchs de Ligue des Champions, il te faut tourner un cours de...
Qualitativement et quantitativement.
Ouais, 4-5 joueurs de plus, facile, de qualité. Donc, il te faudrait peut-être un grand buteur, il te faudrait un attaquant de plus et puis un défenseur central minimum. Voilà.
C'est dans le bain.
Voilà. Et donc, si tu veux continuer à bâtir, si tu veux que des joueurs de qualité comme on a eu Rabiot, Hubert viennent, il te faut la Ligue des Champions, les mecs qui ne viennent pas. Et il te faut l'argent.
Voilà, la force attractive se joue également sur plusieurs tableaux. Donc l'argent est une chose, mais également attirer
la compétition. Voilà, tu joues la Ligue des Champions.
Quoi de plus, quoi de mieux.
C'est vrai qu'on le voit avec les joueurs. On en parlait encore hier soir. Le Vélodrome attire parce qu'il est plein, parce qu'il y a du monde, parce que c'est bruyant.
Oui.
Il attire De Zerbi attire. Les bons joueurs font venir. Voilà, donc. Il faut rester dans cette dynamique. Il nous faut un résultat en fin de saison qui soit à la hauteur de nos ambitions.
Ben, voilà. Tu as tout dit et nous y arriverons.
Voilà, on y arrivera.
Patrick, nous allons dire au revoir à nos auditrices et nos auditeurs, leur souhaiter une excellente semaine. Une semaine, je dirais, la meilleure qui soit.
Voilà.
En tout cas...
Et leur donner rendez-vous la semaine prochaine.
Voilà. Allez l'OM.
Et merci.
À toutes et à tous.